14h dans le retour avec les demoiselles.
À demain.
Salut.
Boulevard.
Boulevard.
Te t'y informer.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement.
Boulevard 102.1, maintenant 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Contribuables est avec nous ce soir. Contribuables avec un S.ca pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables. Comment ça va, mon ami? Bonsoir!
Bonsoir, ça va bien, toi?
Pas pantoute. Je suis poqué. Je me suis couché tard. J'ai dormi à peu près 2h30 parce que je fais le show du matin. 2h30, 3h. Puis là, je suis avec toi à cette heure-ci. Puis je commence à avoir les yeux fatigués. J'ai l'impression de... Tu sais, les vieux, là, quand ils voient pas clair le soir, là, ils te regardent avec les petits yeux plissés, ben c'est comme ça que je te regarde à soir.
Ils lèvent le menton de même pour regarder.
Ou bien ils ont leurs lunettes, puis ils baissent le nez, puis ils regardent au-dessus de leurs lunettes, pour voir. Mais là, c'est parce qu'ils ont leurs lunettes d'en face. J'ai jamais compris ce réflexe-là. Mais c'est pas grave, mon Canadien de Montréal va se reprendre demain. C'est Lane Hudson qui contrôle le but gagnant, qui va avoir tout un match demain en raison de l'erreur qu'il a faite hier. Je te prédis d'avance que le Canadien va mettre ça 2-2, j'en suis persuadé.
On l'espère. Écoute, je suis pas la personne qui écoute le plus les sports, mais la fièvre des séries, elle s'est rendue jusqu'à chez moi. Je suis ça du coin de l'œil depuis un bon bout, puis écoute, je touche du bois, mais j'espère que cette année sera la bonne. Pour être honnête, je pense que la série contre la Caroline a très bien commencé avec une victoire en plus à domicile chez eux. Ouais. Je pense envoyer le coup d'envoi, mais malheureusement, on l'a échappé hier et samedi. Mais bon, on va se rattraper, on a vu pire. Je croise les doigts, honnêtement.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, comment trouves-tu l'attitude de nos politiciens, qu'ils soient au municipal ou au provincial ou au fédéral, par rapport à notre argent, ce qu'on leur confie? Parce que vous autres, la Fédération canadienne des contribuables, vous êtes un peu le chien de garde, là, et vous regardez toutes les dépenses qui sont faites par les gouvernements, vous étudiez ça, puis quand il y a de quoi qui va pas, vous levez un flag. Mais l'attitude générale des maires et mairesses, l'attitude générale de nos députés, de nos ministres, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, je la trouve très particulière en ce qui concerne notre argent. C'est comme si on était un puits sans fond de ressources qui va leur permettre de faire avancer leurs idéologies. Je trouve qu'on n'est pas dans un bon moment là, pour ce qui est de jouer dans nos poches. Là. En fait, il n'y a jamais de bon moment, mais ces temps-ci, on dirait qu'à chaque fois qu'ils nous soutirent un dollar, on devient comme un peu agressif entre les deux oreilles. Là.
Absolument, puis effectivement, dans le même sens, c'est jamais un bon moment d'aller chercher davantage d'argent dans les poches des contribuables. Puis souvent, on a l'impression, avec raison, que nos élus voient les contribuables québécois comme des citrons qu'on peut presser à répétition. Sauf que on est rendu quand même à un point où est-ce que le jus sort plus bien. Je veux dire, on va se dire franchement, les Québécois, on est quand même les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord. Si, par exemple, le Québec était un pays, on serait parmi les pays de l'OCDE avec le plus lourd poids fiscal sur le dos des contribuables, comme des entreprises. Et malgré ça, malgré le fait qu'on paye autant d'impôts et de taxes pour souvent des services et des infrastructures qui semblent s'effondrer à vue d'œil, les politiciens, au lieu de regarder la colonne des dépenses qui est directement de leur responsabilité, ils vont plutôt regarder la colonne des revenus, comment est-ce qu'ils peuvent la croître. Et généralement, par extension, ils se tournent vers le portefeuille des gens. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est récemment avec le fameux rapport qui a été proposé là, par Jérôme Forget et Marceau à l'Union des municipalités du Québec, où est-ce qu'il laisse entendre que, avec raison, on a des déficits structurels importants, plutôt par rapport à la gestion des infrastructures au Québec. Quand on parle d'un déficit, c'est-à-dire les retards au niveau des investissements pour la maintenance des infrastructures. Donc, on parle d'environ 52 milliards de déficit cumulé pour l'ensemble des municipalités du Québec présentement. Dans 10 ans, ça va monter à 94 milliards. Donc, c'est un vrai problème. Par contre, la solution qui est mise de l'avant, c'est de dire ben, il faudrait que les municipalités augmentent les taxes davantage. Non, il faut que les municipalités s'achètent un miroir et regardent dedans. Il faut qu'ils arrêtent d'aller chercher davantage d'argent dans les poches du monde et d'arrêter d'essayer de financer des projets que le monde n'a pas demandé et qu'ils se concentrent sur leurs priorités, que ce soit la voirie, les infrastructures existantes, les aqueducs, les vidanges et la sécurité publique. C'est ça, normalement, les priorités d'une municipalité. Mais on a vu au cours des dernières années à quel point certaines d'entre elles, comme Montréal, sous l'administration de Valérie Plante, elle m'a donné un mandat supplémentaire où est-ce qu'on se prend pour les gens d'Avengers qui vont sauver la planète avec un coup de piste cyclable puis de piétonisation. La réalité, c'est que ben, quand on regarde l'état de Montréal présentement, pour ne nommer que cette ville-là, ben, on n'a pas vu grand-chose qui s'est amélioré. On a vu la dette augmenter, on a vu le compte de taxes augmenter même plus que l'inflation, comme ce fut le cas la dernière fois. Et pourtant, est-ce que les Québécois, est-ce que les Montréalais en ont plus pour leur argent? Malheureusement, la question est vite répondue.
Mais comment on en vient à être comme ça? Tu sais, Nicolas Gagnon, tu as été à l'école, j'ai été à l'école, on connaît la colonne des plus, on connaît la colonne des moins. On a tous, pour la plupart, des budgets à respecter en raison de l'argent qui nous rentre dans les poches à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Notre premier réflexe, c'est de voir, tabarouette, il me semble que j'arrive serré, c'est de regarder dans mon budget à savoir c'est où est-ce que je dépense trop, y a-tu des endroits où je pourrais couper? Tu sais, on est en tant qu'individu, on le fait, Nick. On regarde nos dépenses, puis si jamais on est dans le trouble en disant « là, je ne peux plus couper », bon, on va aller voir le patron, qui est le contribuable en fait, mais on va aller voir notre patron dans notre entreprise privée, puis on va dire « patron, j'arrive pas, mais il semble que ça ferait bien un petit 100$ de plus par semaine, es-tu capable de te le permettre? Je te promets que je vais être un meilleur employé que je l'ai été des dernières années. La dernière chose que je vais faire, là, j'espère qu'ils ne m'entendent pas, mais la dernière chose que je vais faire, c'est d'aller demander une augmentation de salaire à mes patrons quand moi, je suis pas capable de me gérer. Mais tu sais, quand ces gens-là deviennent députés, c'est quoi? Ils perdent leur notion qu'ils avaient au départ dans la colonne des plus, les moins, le budget à respecter. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un rite satanique là, où ces gens-là sont autour d'un cercle et ils doivent oublier c'est quoi un budget puis à quel point c'est important de respecter un budget? T'es-tu invité dans ce cercle-là? C'est-tu toi le curé? Ça fonctionne comment, là?
Non, malheureusement, je ne fais pas partie des Illuminati du Québec. Je n'ai pas encore reçu mon invitation.
Le New World Order!
mais il n'en reste que, oui, je suis d'accord qu'il y a une déconnexion assez déconcertante quand les gens passent de la vie civile à la vie politique.
Ben oui.
Ces gens-là ont tendance à grandement changer. Je pense qu'un des meilleurs exemples qu'on a eu au Québec des dernières années, c'est François Legault lui-même. À quel point le François Legault entrepreneur versus le François Legault quand il était au PQ versus le François Legault quand il lance la coalition des Québec versus le François Legault qui arrive au gouvernement en 2018, c'est quatre personnages différents. Mais je pense que là où est-ce qu'il agit de manière la plus déconnectée de la réalité des contribuables, c'est vraiment dans son dernier mandat à partir de 2022. Je cite lui à titre d'exemple, mais on peut aller plus loin quand même. Et parler de tous ces autres politiciens qui se sont fait un peu élire ou qui promettaient, par exemple, d'alléger soit le fardeau fiscal des contribuables ou de mieux gérer l'argent des contribuables pour finalement livrer des déficits majeurs ou plus importants que ses prédécesseurs. Un autre exemple, Mark Carney. Mark Carney qui s'est fait élire quand même sur la base en bonne partie de son CV. C'est quelqu'un qu'on sait qui vient du milieu bancaire, donc quelqu'un de la finance qui semble comprendre comment gérer les finances publiques. Finalement, il arrive à dépenser plus que son prédécesseur, Justin Trudeau, qui était tout sauf quelqu'un qui faisait preuve de rigueur avec les finances publiques. Puis il arrive à avoir des déficits encore plus importants que ceux qui étaient projetés par son prédécesseur. Donc, finalement, on est comme, tu sais, en tant que contribuable, on se demande, on va chercher des gens qui sont d'apparence responsable, avec le background qui semble coller avec les responsabilités qu'on leur a confiées, puis arrivent à nous livrer des résultats qui sont pires que leurs prédécesseurs, toujours sous le couvert, bien sûr, de ben, il faut faire des investissements, on n'a pas le choix, il faut qu'on pense à long terme. Toujours, bien sûr, pour annoncer des nouveaux programmes, des nouvelles dépenses, des nouvelles infrastructures. Je prends par exemple le fédéral qui décide de garocher pour le plus de 90 milliards sur un TGV. On a des finances publiques dans le rouge depuis 2015, puis on risque d'avoir encore dans le rouge jusqu'en 2035. Là. C'est 20 ans où est-ce que le gouvernement canadien accumule des déficits, fait gonfler, voire doubler la dette, puis refait de la facture aux contribuables de demain. Puis on essaye de se permettre, on ose prétendre qu'on peut se permettre un TGV. Bien, maintenant, je prends un peu de recul, on s'en va au Québec. on a des déficits majeurs. Comment ça se fait qu'on a un gouvernement qui garoche l'argent encore sur la filière électrique, sur les Nemaska Lithium et compagnie? Comment ça se fait? Bien, la réalité, c'est qu'on dirait qu'ils ont mis de côté la logique comptable et ils vont plutôt dans l'électoralisme primaire parce qu'un politicien, il y a plus, on dirait, puis je ne dis pas pour tous les politiciens, je pense qu'il y en a des très bons, mais il y en a plusieurs qu'eux autres, on dirait que le plus important, c'est la transcendance. C'est-à-dire qu'on va se rappeler de leur héritage, leur passage en politique grâce à ces projets de grandeur qui sont payés par les contribuables, qui vont être assumés pour des générations de contribuables, puis finalement, on n'est même pas sûr si ça va être gagnant à la fin de la journée. Donc, c'est une déconnexion que j'ai de la difficulté à expliquer, mais en même temps, quand on manque, quand on n'a pas nécessairement d'idéologie, qu'on s'en va en politique, c'est facile de se faire orienter par des staffers, par des hauts fonctionnaires, par un whip, par le reste de l'establishment politique. Donc, il y a quand même aussi ça à considérer.
Mark Carney, multimillionnaire. François Legault, multimillionnaire. Pierre Fitzgibbon est multimillionnaire du temps où il était dans sa carrière politique. On nous disait qu'il était multimillionnaire. Est-ce que ces gens-là gèrent leur propre argent comme ils gèrent l'argent du public?
Impossible. Impossible. Je veux dire, la preuve, je pense que Pierre Fitzgibbon s'est fait poser la question, est-ce que vous auriez mis de l'argent dans Nordvolt? Puis il n'a jamais été capable de répondre. Je pense que ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir à ce niveau-là. Dans le cas de Mark Carney, bon, je ne vais pas faire d'allusion trop directe, mais bon, n'en reste que lui, Brookfield semble être bien aligné avec les investissements du gouvernement fédéral.
Tout comme ses... tout comme ses voyages semblent bien alignés après le passage de Brookfield, là.
Ben, exactement. Fait que lui, peut-être, à la limite, on pourrait dire, ben oui, il semblerait que avec son argent personnel, ben c'est pas son argent personnel, mais il suivrait la même tendance que les entreprises pour lesquelles il a travaillé. Mais oui, écoutez, si les politiciens géraient les finances publiques de la même manière qu'ils ont géré leurs propres avoirs, je pense qu'on serait dans une bien meilleure posture présentement. Mais la réalité, c'est que des gens comme Pierre Fitzgibbon, respectueusement, je vais pas m'attaquer au personnage, mais plus à son personnage politique, mettons le caractère, quand il est arrivé en politique, on dirait qu'il s'est vu comme super ministre, comme s'il y avait un chèque en blanc, puis c'est exactement ça comment il l'a pris. Là. D'ailleurs, en tant que ministre de l'économie, il y avait littéralement sur son bureau, d'un point de vue pas direct, mais il y avait le fameux Fonds de développement économique du Québec. C'est un fonds qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui sert à stimuler l'économie à travers des investissements directs sous différentes formes. Il a réussi à perdre 6,4 milliards de dollars de l'argent des contribuables à travers ce fonds-là. C'est énorme. Mais ça, c'est parce que, ce ministère-là, pour moi, il devrait être aboli, là, mais ça sera une discussion pour plus tard. Mais lui, en tant que ministre, se retrouve avec une responsabilité confiée par le premier ministre où est-ce qu'il se fait donner le rêve de grandeur de constituer des industries. Or, la plus importante, finalement, la pièce maîtresse, ça aurait été l'industrie de la filière électrique. Donc, je ne sais pas comment... On peut positionner ça, on peut expliquer ça, mais on passe de quelqu'un qui a géré ses finances et qui faisait des investissements stratégiques à quelqu'un qui se prétend au-dessus du marché et qui décide de prendre l'argent des contribuables pour faire des paris. Il y a comme une transformation entre l'homme d'affaires puis le politicien en forme de power trip avec un chèque en blanc signé par les contribuables. Puis aujourd'hui, ben, on en paye un peu le prix parce qu'on voit on a vu les résultats au cours des dernières années de ces investissements-là. Mais on réalise aussi à quel point les subventions aux entreprises non seulement ne stimulent pas l'économie québécoise autant qu'on le prétend, mais elles créent aussi une forme de distorsion parce que ça avantage des joueurs face à d'autres avec l'argent des contribuables. Ça éloigne des investisseurs étrangers. Mais en plus, ben, c'est des pertes colossales. Puis le monde commence à réaliser à quel point ça a été coûteux. On a beaucoup parlé de Nordvolt et compagnie dans les dernières années, puis des lions électriques, mais le problème est plus large, puis il est répandu à grandeur de la province. C'est pas juste la filière électrique qui a été pas mal moussée par l'argent des contribuables malgré eux.
Ouais, tu sais, quand tu me dis que le monde commence à comprendre que les policiers dépensent peut-être un peu trop notre argent, je suis pas autant convaincu que toi, là, mais j'espère que tu as raison. Pierre Fitzgibbon, tu nous dis, vas-y plus lentement quand tu me parles à moi, là, parce que tu n'es pas à Radio-Canada, tu n'es pas avec quelqu'un d'intelligent. Jean, là, t'es quelqu'un comme moi, là, un simple payeur de taxes là, qui n'est pas syndiqué. Tu me dis que Pierre Fitzgibbon nous a fait perdre 6,4 milliards de dollars?
Oui, ben, en fait, c'est plutôt... Parce que c'est lui spécifiquement, je vais plutôt dire, c'est les investissements qui ont été faits à travers le Fonds de développement économique
du Québec. Donc, sous sa gouverne, on a perdu 6,4 milliards de dollars.
Depuis 2018,
parfait.
Exactement.
Le goudron et les plumes, c'est arrivé quand là, dans la carrière politique de Pierre Fitzgibbon là, qu'on lui mette du goudron sur la tête puis qu'on lui mette des plumes puis qu'on le fasse traverser, je sais pas, le pont Jacques-Cartier ou encore le pont de Québec, là, à Québec, pour l'insulter, pour dire « voici ce que vous avez fait avec notre argent, c'est inacceptable ». Le goudron et les plumes, c'est arrivé à quel moment dans sa carrière politique?
Je pense que ça serait le meilleur. Je pense que ça serait même mieux si on lui disait de pousser un autobus électrique de Lyon qui ne fonctionne plus. Je pense que ça serait. Pas besoin de plume, puis rien. Fait juste pousser l'autobus. Là, puis bonne chance pour la suite. Okay. Mais c'est une bonne question parce que oui, je pense que les politiciens, bon, à la limite, ne devraient pas être humiliés sur la place publique. Par contre, ils devraient faire face à la musique pareil. Dans le cas de Fitzgibbon, lui, il a démissionné. J'ai rappelé, il a démissionné en 2024, ouais, avant même de passer en commission parlementaire pour déposer son projet de loi 69. Je veux dire, littéralement, la veille, il annonce sa démission, là, alors que c'est un projet de loi qui était supposé intégrer, entre autres, une réforme par rapport au rôle de la régie de l'énergie, qui était aussi supposé intégrer des changements comme l'élimination du prix plancher sur l'essence. Il a fallu backpedal puis forcer le gouvernement à finalement rattraper différents éléments du projet de loi 69, parce que quand il est parti, en laissant ça tout en l'air puis en faisant comme ça n'était. Mais la réalité, c'est que je pense que les politiciens, comme que ce soit Pierre Fitzgibbon ou sinon Justin Trudeau, ou même François Legault, qui se permettent de démissionner en cours de route puis de ne pas faire face à la musique, donc de ne pas faire face aux électeurs aux prochaines élections, je pense qu'ils devraient avoir une formule plus intéressante que finalement juste les laisser aller puis leur laisser empocher la pension éventuellement. La meilleure solution qui soit proposée, c'est les fameux « recall legislation », des lois de rappel, ouais, qui peuvent forcer la tenue d'un référendum dans une circonscription donnée pour forcer ensuite la tenue d'une partielle pour mettre dehors un politicien. Je pense que c'est, à la limite, je pense que c'est un outil qui pourrait être intéressant. Ça ne nous empêche pas, malheureusement, de se retrouver avec des mauvais politiciens. Ça n'empêche pas, malheureusement, que certains vont peut-être essayer de se faufiler puis de démissionner avant de faire face à leurs électeurs, puis à leurs constituants. Mais il n'en reste que, à la fin, on devrait avoir la capacité en tant qu'électeur de faire plus que de s'exprimer une fois aux quatre ans, puis de faire comprendre aux policiers de notre circonscription qu'il y a peut-être qu'il est allé trop loin, puis il est temps qu'il s'en aille. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, que François Legault, Justin Trudeau et compagnie, ils quittent sur leur propre terme. Puis ça, je pense que pour plusieurs, ça nous laisse un arrière-goût assez amer, parce qu'on se dit, ben non, ça aurait été bien qu'ils comprennent que les politiques des dernières années qui nous a fait subir ou plutôt qu'à appliquer était totalement ridicule puis mérite d'être critiqué et même d'être rejeté aux urnes.
Mais quand même, 6,4 milliards de dollars que Pierre Fitzgibbon nous a fait perdre sous sa gouverne, je trouve ça hallucinant. Tu sais, 6,4 milliards de dollars, pour certains, ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, c'est des impôts qui ont été envoyés aux provinciales, qui ont servi à mauvais escient, qui auraient peut-être pu servir aux gens qui sont malades dans nos hôpitaux ou encore à rebâtir nos écoles ou rebâtir nos hôpitaux ou encore nos infrastructures. Tu sais, c'est 6,4 milliards d'impôts qu'on leur envoie. C'est de l'argent perdu qu'on ne reverra jamais. Est-ce que toi, tu serais pour bonifier les salaires de nos politiciens avec des bonis de performance? Parce que là, je m'embarque dans une place où c'est peut-être un peu dangereux là, au niveau du jugement, mais un gars pas comme Christian Dubé, son passage en politique pendant quelques années lui a fait perdre énormément d'argent. C'est un gars qui gagnait des salaires au-dessus $1 million, arrive en politique, est en bas de 200 000 pendant quelques années, ou peut-être 200 quelques mille pendant quelques années. Il a perdu énormément d'argent, mais si on donnait la chance au premier ministre du Québec d'avoir un plus gros salaire que celui qu'il a actuellement, mais ça viendrait avec des bonus. Donc, est-ce que tu es rentré dans le budget? Est-ce que tu as géré l'argent efficacement dans les différents ministères avec des objectifs très précis qui leur permettraient peut-être de gagner autant qu'ils gagnaient pour l'entreprise privée? As-tu l'impression qu'on aurait peut-être un meilleur résultat quand ça tombe directement dans leur poche?
C'est une bonne question. D'emblée, je dirais non. Parce que c'est pas comme
ça. Non, mais t'es un cheap, toi. Tu trouves qu'on les paye beaucoup trop, mais t'es un cheap, là.
Ben oui, oui. Ben non, quand c'est temps des finances publiques, je suis très cheap. Puis les politiques devraient être cheap. C'est carrément une culture qui doit être intégrée. Par contre, la réalité, c'est qu'on a, c'est pas comme si au Québec, dans la politique québécoise, on n'avait pas attiré des gens du milieu des affaires qui étaient fortunés et qui faisait quand même le sacrifice de leur politique. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est Pierre-Carl Péladeau lui-même. Il y a toute l'histoire par rapport à je pense, de ses avoirs qui étaient mis sous fiducie, sans droit de regard, etc. Mais à la fin, il a quand même fait le sacrifice de passer de PDG à député, à l'opposition, puis chef du Parti québécois avant de quitter, je pense, en 2015-2016. Il en reste que la politique a déjà été en mesure de tirer des hommes de cette trempe-là, avec un certain niveau d'avoir, qui faisait justement le sacrifice de ces revenus-là. Maintenant que c'est dit, avant même de considérer toute augmentation de salaire pour les élus, je pense que le premier barème qui doit être appliqué, puis pas juste pour les élus de l'Assemblée nationale, mais pour tous les hauts fonctionnaires, ne pas mélanger avec les gens comme les fonctionnaires comme les infirmières et professeurs et autres, je parle vraiment de la haute fonction publique, donc les mandarins de l'État, tout ce monde-là ne devrait pas avoir droit à une augmentation de salaire tant aussi longtemps que les finances publiques du Québec ne sont pas équilibrées. Donc ça devrait être un incitatif direct, même je dirais, non seulement il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais il devrait carrément avoir un malus de 10% de leur salaire par année, tant aussi longtemps qu'on n'a pas retrouvé l'équilibre budgétaire. Donc moi,
Donc,
j'irais beaucoup plus loin.
on amputerait leur salaire de 10% s'ils ne sont pas capables de rentrer dans le budget.
Par année, de manière successive. Comme ça, moi, des histoires de « Oh, on a un plan sur 5 ans pour équilibrer les finances publiques. » Ouais, ben tu vas perdre 50 % de ton salaire, mon chum. C'est ce que ça veut dire. Puis quand l'équilibre budgétaire sera de retour, ben tu récupéreras 50 % de ton salaire. Sauf que,
Intéressant.
bon, encore faut-il que tu sois encore en politique après 5 ans, ce qui est pas nécessairement donné pour tous les élus.
Est-ce que tu
Mais il
fais
n'en
ça?
reste que
Est-ce
ça...
que tu fais ça avec tous les députés?
Absolument. Quoique non, je vais mettre un pas de recul là-dessus. Je pense que ça serait surtout pour les élus du gouvernement.
OK, j'aime ça.
Bien sûr que dans le cas d'un gouvernement de coalition, c'est tous les élus. Je pense que ça devrait s'appliquer à tous les élus. Donc, si un gouvernement minoritaire, bien là, c'est une responsabilité qui est partagée par tous les élus. Parce qu'une petite formation politique peut avoir la balance du pouvoir. Si elle s'engage à appuyer un budget qui est déficitaire, bien qu'elle en paye le prix. Mais sinon, je pense que ça devrait surtout s'appliquer au gouvernement, surtout que là, dans ce cas-ci, la CAQ avait quand même 90 élus en 2022. Ça serait quand même plate de faire payer les 35 autres pour les décisions des 90, mais en même temps, c'est un peu ça la démocratie. Donc, mais à la fin, pour venir à ta proposition de bonus, je suis pas contre l'idée. Contre. Là où j'ai un problème, c'est qui met les critères de performance pour justement faire en sorte que l'élu a droit à une bonification de son salaire en
Ah,
conséquence.
mais moi,
Parce que là, on a mis.
il n'y a pas d'histoire de ressources humaines, que tout le monde est heureux d'en bâtir. Fait que si tout le monde est heureux d'en bâtir, c'est un 5 %. Non, moi, c'est strictement financier, là. Faut que tu rentres dans tes objectifs financiers. Vous vous êtes donné des objectifs. Si tu rentres dedans, si on ne fait pas de déficit, tu as ton fameux bonus qui fait en sorte que tu vas gagner le même salaire que tu gagnais au privé. Parce que en politique, c'est weird, là. Il y a des gens de théâtre qui gagnent 20 000 par année qui se ramassent avec un salaire de 160 000. 150, 160 000 par année. Puis, tu as des gens qui en faisaient 1 million par année, comme Christian Dubé ou encore Pierre Fitzgibbon, qui devait faire plus que ça, qui se ramassent avec un salaire qui est considéré comme un bon salaire pour certains, mais comme d'autres, une perte de salaire, là. Puis, dans leur cas, c'est vrai, c'est une perte de salaire. Fait que si tu leur dis, hey, si vous rentrez dans vos objectifs, vous allez faire le meilleur salaire que vous avez fait dans les 5 dernières années, ça devient intéressant d'aller faire ton service public par la suite.
Non, mais je suis d'accord là-dessus s'il y aurait une forme de compensation adéquate, mais en même temps, l'affaire que je me dis, c'est bon, à quel point est-ce que nous, la société civile, on est responsable d'une perte de revenus d'un élu qui décide de faire le saut pour aller en politique?
Mais ça empêcherait peut-être des pertes de 6,4 milliards de dollars. S'il faut que tu donnes 20 millions en bonus pour qu'ils respectent leur budget puis qu'ils arrêtent de faire des déficits, puis que le 6,4 milliards de dollars n'est pas dépensé, on est dedans, là. On arrive, là. Je ne suis pas un spécialiste des mathématiques, là, mais si on l'empêche de dépenser le 6,4 parce qu'il a bien performé en raison que ça y retombe dans les poches, que ça me coûte 20 millions, ça ne me dérange pas. On a sauvé 6,4.
Ben, le problème, je dirais, c'est pas juste le 6,4 milliards. Le problème, c'est qu'il existe un fonds de développement économique du Québec. La réalité, c'est qu'on manque pas de fameux slush funds, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire des fonds qui peuvent être utilisés pour n'importe quelle raison, des fonds discrétionnaires que le ministre peut utiliser. Bien sûr, dans le cas du ministre de l'économie, c'est littéralement utilisé pour l'interventionnisme à outrance, mais on pourrait prendre n'importe quel autre ministère, ça se ressemble quand même à quelque part. On pourrait parler du fonds vert pour le ministère de l'Environnement, entre autres. Bref, ces fonds-là, à la fin, ne devraient pas exister. Je veux dire, c'est plate, mais la réalité, c'est que cet argent-là, elle appartient aux contribuables. Si les ministres avaient moins d'outils pour dépenser l'argent des contribuables, déjà, ça ferait en sorte qu'il y aurait moins de gaspillage. Le problème, c'est que dans le modèle québécois qu'on a présentement, on s'est doté d'un paquet de mécanismes qui permettent aux ministres, justement, de pouvoir dépenser sans compter ou pouvoir de dépasser une certaine marge de manœuvre. Ceci étant dit, tu mentionnais par contre, tu sais, que s'il y avait un contrôle sur leurs dépenses ou s'ils atteignaient leurs objectifs, on pourrait donc bonifier leur salaire en conséquence. C'est-à-dire, on va dire, on donne un budget au ministère de la Famille de 200 millions de dollars. C'est probablement plus que ça. Mais si tu dépasses de 1% maximum, en fait, si tu dépasses pas de plus de 1%, tu aurais droit à une prime. Mais si ton... Donc, tu sais, je pense que la responsabilité du ministre va être liée directement à comment est-ce que son ministère se comporte et des résultats de son ministère par rapport aux services donnés, par rapport à la gestion de leurs effectifs, par rapport à la performance des effectifs. Donc, je pense, oui, il faudrait à la limite mettre beaucoup plus de responsabilités sur les épaules des ministres. En contrepartie, là, une fois que tout ça est mis de l'avant, y compris cette fameuse loi où est-ce qu'on empêcherait l'augmentation de salaire sans retour à l'équilibre budgétaire, là, on pourrait se retrouver dans une position où est-ce que le ministre, j'accepterais ce qu'il y ait un salaire qui soit à la limite bonifié. Mais ce serait extrêmement conditionnel à une liste de choses qu'on sait tous très bien que les élus ne feront pas demain matin.
Je parlais avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire ce matin dans le show. Et puis, tu sais, je suis vraiment pas du côté de Québec solidaire dans ma vie. Je peux te le confirmer. Si jamais je vais dans un rassemblement de Québec solidaire, ils vont me tirer de l'eau bénite. Là. Quoiqu'avec des fois, avec l'odeur, je me rends compte qu'ils ont peut-être pas accès à l'eau. Mais c'est sûr que si je rentre à Québec solidaire dans une salle où il s'est rempli, c'est sûr que je brûle. Mais par contre, ce matin, je m'entendais très bien avec Gabriel Nadeau-Dubois sur certains sujets. Lui, il a fait un travail quand même assez précis, là. Il a analysé 190 projets d'infrastructure qui étaient financés par le gouvernement de 2019 jusqu'à 2026, qui représentent les années de la coalition Avenir Québec. Et entre autres, pour les écoles, ben, il s'est rendu compte que dans les circonscriptions où le gouvernement était présent, c'est-à-dire c'était des députés de la coalition Avenir Québec, ben, il y avait plus de chances d'obtenir du financement du provincial pour la construction d'écoles, d'infrastructures scolaires, que, exemple, si tu étais une circonscription où c'était Québec solidaire. Et je trouve que le travail est quand même intéressant parce qu'on s'en est toujours douté. Là. Moi, j'ai connu les années 80, j'ai connu les années 90. Le gouvernement s'est tout le temps servi de notre argent pour faire progresser ou donner une meilleure chance à ce gouvernement-là d'être réélu pour 4 autres années. Donc, dans certains secteurs où on se rendait compte que le taux de chômage était très élevé, ben, on trouvait des projets à faire. Ah, ben dans ce secteur-là, le taux de chômage est à 8 %, il est quand même assez élevé. Tiens, on va faire un projet de parc éolien et là, on va faire travailler des gens pendant des années pour bâtir ce parc éolien-là. Le travail que la gang de Québec solidaire a fait, puis c'est moi qui le dis, là, je suis complètement anti-Québec solidaire tout le temps, je salue ce travail-là parce que là, enfin, concrètement, sur le papier, on le voit, le gouvernement en place va toujours privilégier les endroits où ils ont des députés dans ces circonscriptions-là. Là.
Oui, puis effectivement, très bon travail de Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai pas vu le rapport, je sais que ça fait une vingtaine de pages, puis c'est bien fouillé, bien recherché. C'est pas un document partisan, là, contrairement justement aux investissements qui ont été faits par la CAQ, par le gouvernement de la CAQ dans des circonscriptions qui étaient les leurs. C'est malheureusement pas une pratique nouvelle. J'aime pas ça faire le comparatif, c'est que notre point Godwin québécois, mais je pourrais ramener ça à l'époque du Plessis, ou est-ce que c'était littéralement ça? Moi, je n'étais pas né, mais c'est plus l'époque de mes grands-parents, mais eux autres, s'ils ne votaient pas pour Duplessis, ben.
T'auras pas d'asphalte.
Il n'y a pas d'asphalte, c'est de la gravelle pour les 4 prochaines années. Puis si tu votais pour, ben, ça se peut que tu avais une chance de gagner un frigidaire. Il y avait comme. C'était une autre époque. mais tu te rends compte que finalement, malgré que ça fait quoi 70 ans de ça, les pratiques n'ont pas tant changé. La culture est encore à la même place. C'est fou à quel point. Genre un exemple, moi, j'ai fait mon cégep à Saint-Jérôme. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans les Laurentides. Puis, à Saint-Jérôme, il y a un hôpital. Et l'hôpital est vraiment dans un état désuet. On parle souvent de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais je pense que l'hôpital de Saint-Jérôme et de Gatineau sont des compétiteurs là, en termes de vétusté là, de leurs infrastructures. Et la réalité, c'est que quand on regarde l'historique de la circonscription de Saint-Jérôme, à part sous la CAQ, sous Youri Chassaing, ça a été quasiment toujours à l'opposition. C'est-à-dire que, bon, il y a eu la CAQ, ben en fait, je ne me souviens plus de son nom, là, l'ancien chef de police, mais lui, encore, c'était à l'opposition. Avant ça, c'était Pierre-Carl Péladeau, qui était dans Saint-Jérôme, était à l'opposition. Bref, il s'était présenté quand le PQ était au pouvoir, mais on était là 18 mois. Avant ça, c'était le PQ, mais il était à l'opposition depuis 2003, et ainsi de suite. Donc, la réalité, c'est que quand on regarde ça, tu dis, OK, pendant une vingtaine d'années, la CAQ a été à peine, pas la CAQ, le gouvernement, n'était, attends, je me replace, Saint-Jérôme n'était pas au gouvernement pendant une vingtaine d'années. Puis quand on regarde les retards en investissement dans l'hôpital de Saint-Jérôme, ben ça faisait quasiment 20 ans qu'il ne s'était rien passé. Ouais. La dernière fois que Saint-Jérôme avait été du bord du gouvernement, c'était sous les libéraux au début des années 90. Puis là, il y a eu des investissements dans l'hôpital. Puis après ça, Saint-Jérôme n'était plus au gouvernement, puis il ne s'est plus jamais rien passé par la suite. Puis il a fallu quémander sous différents gouvernements jusqu'à ce qu'en 2018, la CAQ arrive, Yuri Chassin s'installe, puis là, ils ont commencé à débloquer le projet. La raison pour laquelle j'explique ça, c'est que c'est une anecdote bien, bien basique sur ce qui peut se passer dans une circonscription quand vous avez plusieurs infrastructures désuètes qui dépendent de financement provincial, mais dont l'électorat ne se tourne pas nécessairement vers le parti de la gouvernance. Puis à cause de ça, bien, ils sont privés d'investissements critiques. Parce qu'un hôpital, à la fin de la journée, quand tu n'investis pas là-dedans, tu manques carrément de lits d'hôpitaux, tu manques de places, tu manques de blocs opératoires. Tu manques de tout ce qui est nécessaire pour améliorer la qualité de vie des gens. C'est quand même critique, là. On peut parler des écoles aussi à coup parti, mais je pense que ça témoigne d'une culture qui, honnêtement, est très, très, je dirais, cancérigène ouais. pour notre démocratie. Puis surtout que la CAQ, la manière qu'ils se sont comportés, on s'entend que, bon, en 2022, il y avait quand même 90 circonscriptions. Donc, c'est dur de ne pas investir dans une de tes circonscriptions quand tu as autant de terrain à couvrir. Donc, le fait d'avoir fait ce calcul-là, malgré tout, puis si je ne me trompe pas, dans le rapport de Gabriel Nadeau-Dupois, c'est aussi mentionné que dans les circonscriptions caquistes, les écoles sont moins vétustes qu'elles le sont dans les autres régions où est-ce que ben, c'est pas caquiste, il y a eu moins d'investissement.
Exact. Donc, dans le fond, pour ce qui est des députés caquistes, là, dans leur circonscription, ils ont hérité de plus de 72% des projets, alors qu'ils représentent à peu près à l'Assemblée nationale autour de 64% des circonscriptions.
C'est ça. C'est carrément déséquilibré. Mais après ça, quand on regarde les investissements qui ont été faits, qui ont été faits souvent dans des écoles, je ne dis pas qu'on ne doit pas investir là-dedans. Écoute, très en faveur de toute forme de décentralisation puis de coupure dans les dépenses gouvernementales. Jamais je parle d'éducation ou de santé. Je suis assez catégorique là-dessus. Il n'en reste que comment ça se fait qu'on investit plus d'argent dans des écoles qui ne sont pas vétustes, qui sont relativement dans un bon état, alors que dans la circonscription d'à côté, qui ont voté pour le mauvais monde, apparemment, entre guillemets, ben, les écoles tombent en lambeaux, mais les investissements sont à attendre. C'est la même chose pour les projets d'hôpitaux. Je veux dire, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je mets un chapeau d'aluminium, là, mais c'est pas dans une circonscription caquiste. Après ça, on se demande pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps de débloquer de l'argent juste pour refaire le stationnement. Fait que ça donne une idée des conséquences de ce genre de culture-là.
Souvent, ça prend des animateurs de radio pour parler de ce type de sujet-là. Ça prend des chroniqueurs comme toi, ça prend des animateurs de télé, ça prend des journalistes. Puis après un gros reportage qui est vu et entendu, les politiciens vont prendre des décisions qu'un peu plus de sens. Mais, tu sais, moi, je peux pas parler pour les années 50, les années 60, les années 70, mais mettons que je fais ma propre étude scientifique, là, je me souviens des années 80, 90, 2000. Tu sais, quand on nous disait « voter du bon bord », là, on comprend ce que ça voulait dire « voter du bon bord ». C'est que si tu votes pour le député, si tu votes pour le candidat qui va être député du gouvernement qui est en place, t'as peut-être plus de chances d'avoir des investissements dans ton comté, ce qui ne représente pas nécessairement ce que c'est qu'une démocratie. Normalement, quand tu gouvernes aussi pour les gens qui pensent pas comme toi. Parce que parfois, je sais que ça peut être surprenant, mais les gens qui pensent pas comme toi peuvent t'amener d'excellentes idées, puis ils peuvent parfois te faire changer d'idée, tu sais.
Exact. Puis je pense qu'un exemple que j'ai vu passer il n'y a pas si longtemps, c'est une annonce d'investissement qui était faite par le gouvernement fédéral dans Mirabel. Puis ils avaient décidé de pas. Ils viennent faire une annonce d'investissement, je ne sais pas c'est quelle entreprise, là, je ne sais pas si c'est Bell ou si c'est une autre compagnie aéronautique de la région, mais il n'en reste qu'ils ont pris le temps de ne pas inviter le député bloquiste de la place, qui est Jean-Denis Garon, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire que, bon, dans ce cas-ci, Au moins, on peut dire, OK, ben malgré le fait que Mirabel n'a pas voté pour le gouvernement fédéral actuel ou pour les libéraux, il n'en reste qu'ils s'en tirent quand même avec des investissements dans leur circonscription. Bon, moi, je reste quand même contre les subventions aux entreprises, mais il n'en reste que, rendu là, le chèque est signé, on peut juste chialer. Il n'en reste que on arrive à faire de la petite politique en s'assurant à ce que le député qui représente la circonscription ne soit pas dans l'annonce. Donc, je trouve que c'est une approche un peu plus appropriée que celle de la CAQ où est-ce que on investit même à peine dans les circonscriptions où est-ce qu'on n'est pas élu, mais ça va toujours être manipulé d'une quelconque manière par le gouvernement au pouvoir quand il y a des annonces d'investissement. Entendons-nous, s'il n'y a que de l'opportunité en politique, si vous n'êtes pas opportuniste, allez pas en politique. Puis malheureusement, ça fait en sorte qu'on a une mauvaise image de comment la démocratie s'applique quand un gouvernement est élu, puis finalement, on se rend compte qu'il ne dirige pas nécessairement pour la majorité. Ceci étant dit, ça peut toujours changer. Je pense qu'il y a quand même des mécanismes qui vont être mis en place. Je pense qu'on en a déjà quelques-uns, comme par exemple une vérificatrice générale ou un vérificateur général. Je pense que ça serait intéressant qu'elle ajoute son grain de sel sur le travail qui a été fait par Nadeau-Dubois, justement, dans son rapport, pour qu'on aille encore plus loin, parce que lui, ce qu'il a fait comme travail, c'est limité par rapport aux moyens d'un vérificateur général qui peut aller beaucoup plus dans les détails, puis exposer encore plus à quel point ce déséquilibre-là, ben, il dure depuis plusieurs années, puis proposer des solutions pour l'endiguer une fois pour toutes. Mais regardez, la démocratie, c'est le plus parfait des imparfaits systèmes. Donc, ça vient avec ses hauts et ses bas. Mais heureusement, il y a des élus, puis il y a des gens dans l'espace public qui arrivent à exposer ces lacunes-là.
Comment trouves-tu l'attitude de Christine Fréchette par rapport à l'enveloppe qui lui avait été laissée par Éric Girard pour qu'elle puisse réaliser ses promesses pendant sa campagne électorale de la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec? Là, visiblement, avec les décisions qu'elle a prises, elle a défoncé cette enveloppe-là de 250 millions de dollars. Éric Girard a envoyé un message au début du mois de mai, un courriel dans lequel il avertissait le cabinet de Christine Fréchette qu'elle allait dépasser le 250 millions de dollars. Là, on a laissé couler cette information-là, puis Thomas Gerbet de Radio-Canada l'a prise, puis l'a diffusé à grande échelle. Là, Christine Fréchette est fâchée. Il y a une enquête pour savoir c'est qui a coulé cette information-là. N'en demeure pas moins que c'est pas mal la job d'Éric Girard là, d'avertir les ministres et la première ministre des dépassements de coûts, là. Parce que lui, il a ça à s'occuper, il s'occupe du budget.
Ben, je suis d'accord que c'est la job d'Éric Girard, dans la mesure où est-ce que t'es quand même l'argentier du gouvernement. Lui et le président du Conseil du Trésor, quoi qu'ils sont, ou la présidente du Conseil du Trésor, Mme Duranceau, ces deux-là ont quand même un rôle très important à jouer. Mais je pense que ça démontre justement pourquoi est-ce que ce serait important d'avoir un directeur parlementaire du budget à l'Assemblée nationale. Parce que Éric Girard, oui, c'est son travail d'avertir le premier ministre, mais c'est pas son travail d'aller dans l'espace public pour critiquer son chef ou sa chef dans ce cas-ci.
Oui, mais il l'a pas il l'a pas fait, là. Au contraire,
non,
il s'est assis comme un petit chien de service en disant « Oui, j'ai dit ça le 2 mai, mais là, je regarde la situation. Ouf, 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 Christine est correcte, là, parce qu'on a plus d'entrée d'argent qu'on pensait. » Il s'est assis comme un petit caniche, là.
Ben oui, ben, mais en même temps, c'est sa job. T'es le ministre, t'es pas le premier ministre.
Je comprends, Nick.
Il y a quelqu'un qui parle
Mais bien que je ne traite pas pantoute sur la coalition Avenir Québec, là, je le répéterai jamais assez en nombre, parce que des fois, il y en a qui pensent que je suis un caquiste dans l'âme. Mais Éric Girard, là, je m'attends à ce que chaque denier public, là, il l'utilise à bon escient. Puis s'il y a quelqu'un qui abuse des deniers publics, sortir dans les médias, je suis pas sûr, mais je veux qu'il lève des flags. Puis c'est ce qu'il a fait, là. Christine Fréchette devrait juste le féliciter de l'avoir fait, là. Pas demander une enquête à savoir qui est-ce qui a coulé l'information.
Non, absolument. Mais moi, j'aime mettre un peu plus dans la dynamique politique, puis me mettre un peu dans ses chaussures. Puis c'est rare parce que j'ai vraiment pas été doux avec Éric Girard pendant les dernières années. Puis même, je te dirais, en exclusivité, on sort bientôt un rapport qui va pas être sympathique à son égard. Fait que, ceci étant dit, n'en reste que le rôle d'Éric Girard, oui, c'est de s'assurer que l'argent des contribuables soit bien dépensé. Malheureusement, d'un point de vue vraiment, je pourrais dire pas légal ou structurel, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, c'est pas sa responsabilité de sortir dans l'espace public ou même de laisser. C'est aussi sa responsabilité de s'assurer que cette information-là ne fuite pas. Ceci étant dit, toute l'histoire du dépassement des dépenses, pardon, du budget de Mme Fréchette, là, elle s'était fait dire 250 millions, on ne dépense pas plus que ça en aide ponctuelle, ça aurait dû être exposé par un directeur parlementaire du budget beaucoup plus tôt, ou à peu près en même temps que ce que les annonces étaient faites. Puis ça, c'est ce qui est fait normalement à Ottawa. Il y a un directeur parlementaire du budget qui fait cette révision-là pour justement analyser davantage les annonces qui ont été faites par le gouvernement puis nous dire exactement combien ça va coûter, parce que le ministre des Finances, plus souvent qu'autrement, est un élément partisan. À la fin, c'est un politicien, c'est un élu, et il est quand même redevable à sa formation politique. Donc, on ne peut pas malheureusement s'attendre à une transparence absolue de la part d'un ministre des Finances. Peu importe qui soit au pouvoir, que ce soit la CAQ, le Parti québécois, etc., ça serait quand même la même chose. On doit quand même avoir des contre-pouvoirs, ou plutôt des positions qui sont apolitiques, non partisanes, et qui sont là pour exposer l'utilisation de l'argent des contribuables, et au-delà de ce que le ministre des Finances fait. Parce que si on ne dépendait que d'Éric Girard, pour l'instant, on aurait juste des fuites de courriel, ce qui est nettement insuffisant. Puis pour venir finalement à ce que Mme Fréchette fait jusqu'à maintenant, son attitude avec les fonds publics, je vais dire une chose. Je vais quand même toujours apprécier tous les gestes qui sont mis de l'avant par un politicien ou une politicienne pour réduire le coût de la vie en s'attaquant aux taxes, aux impôts ou à toute autre forme de tarification du gouvernement. Mais il faut qu'il y ait un exercice comptable complet. Si on remet de l'argent dans les poches du monde, si on en laisse davantage dans les poches des contribuables, donc ça veut dire que le gouvernement va avoir moins de revenus. Tant mieux, je veux dire, à la fin. Mais il faut que ce soit compensé par une baisse des dépenses. Et ça, malheureusement, l'exercice n'est pas fait, n'a jamais été fait. On continue à pousser par en avant de la dette. On va sûrement accroître le déficit. Et là, ça devient plus dangereux pour, bien sûr, dans les années à venir, voir les générations futures qui vont avoir une marge de manœuvre sapée par une mauvaise gestion des finances publiques. Mais je pense que Mme Fréchette va dans la bonne direction. Elle ne va pas assez loin. Je trouve que ces mesures nous laissent un peu sur notre faim, là, comme par exemple la TVQ, d'abolir pour quelques produits dans les épiceries. On parle d'une économie d'environ 96 cents par semaine pour une famille de quatre. Ce n'est pas tout à fait ce qui va changer une vie. Ce n'est pas tout à fait ce qui va rendre la vie plus abordable pour la très grande majorité des Québécois. Mais elle a compris que c'était dans la bonne direction qu'il fallait aller. Maintenant, c'est juste une question qu'il faut qu'elle aille plus loin puis qu'elle applique une logique comptable en conséquence.
Parfait. Est-ce qu'on aurait pu mettre de côté le fonds vert pour un an, mettre de côté la bourse du carbone pour un an? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être facile pour Christine Fréchette?
En fait, je peux pas dire, malheureusement, je connais pas assez le. Ben, je sais pas si dans le mécanisme de la tarification du carbone, ou plutôt du marché du carbone entre le Québec et la Californie, je sais pas si on peut suspendre l'application de ce mécanisme-là. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on peut l'abolir ou on peut le maintenir. C'est un ou l'autre. Présentement, le gouvernement s'est engagé à le maintenir. Nous, ce qu'on préconise, c'est son abolition pour une raison très simple. De un, ça serait une pierre deux coups, ça règle une injustice. On est les seuls à payer une taxe carbone depuis le 1er avril 2025. On est parmi les deux seules juridictions en Amérique du Nord à payer une taxe carbone présentement. Et deuxième chose à mentionner, c'est quand même 10 cents par litre d'essence. Puis c'est appelé à augmenter au courant des prochaines années. Et ça, c'est une pression qui est ressentie par les agriculteurs, les camionneurs, les livreurs, les automobilistes, bref, par l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, des composants des chaînes d'approvisionnement jusqu'aux consommateurs. Et par-dessus le marché, on dit souvent, mais là, si vous abolissez la taxe carbone, ça va être des revenus en moins pour l'État. Attention, que nenni, parce que l'argent de la taxe carbone se retrouve dans un fonds vert, le fonds à l'électrification et au changement climatique. Puis ce fonds-là, il sert à quoi? À garocher des subventions. Donc, si vous éliminez les programmes de subventions qui se rattachent au fonds vert, si vous éliminez le fonds vert et donc vous abolissez aussi la taxe carbone, on arrive à coût nul. Ça permet aux gens d'économiser, puis ça permet de ne pas accroître le déficit pour autant. Mais encore là, 10 cents, nous, on va le prendre n'importe quand, 10 cents de moins par litre d'essence, mais il faut aller plus loin encore. Pour ça, comme je vous dis, c'est pas juste de se contenter de se débarrasser de quelques programmes ici et là. Il faut faire une révision complète des programmes du gouvernement, des effectifs, puis aller chercher des économies plus intéressantes pour équilibrer les finances publiques, de un, rembourser la dette de deux, et puis s'assurer d'avoir de la marge de manœuvre la prochaine fois lorsqu'il y aura une crise, parce que là, on est dans une crise du coût de la vie, dans une guerre commerciale, avec en plus la crise du pétrole qui n'a clairement pas aidé la situation. Puis là, on dit qu'on manque de marge de manœuvre, on a juste 250 millions pour des aides ponctuelles pour aider le monde. Je suis désolé, mais ça, c'est ce qui arrive quand on gère mal les finances publiques. La CAQ a très mal géré les finances des dernières années. Ils ont accumulé des déficits records. Ils ont essuyé la première décote du Québec en près d'une trentaine d'années. La dernière fois qu'on était décoté, le Canadien gagnait la Coupe Stanley. Ça nous ramène au sujet initial. Et puis finalement, ben, on se retrouve avec une marge de manœuvre qui est limitée parce qu'on s'est endetté. Donc, c'est une leçon à retenir pour le gouvernement actuel et les futurs gouvernements. Gérez les finances publiques comme du monde, équilibrez-les, assurez-vous de rembourser la dette dès que possible pour que quand les temps sont difficiles arrivent, parce qu'il va y en avoir d'autres dans le futur, malheureusement, ben, on aura de la marge pour aider le monde. Contrairement à là où est-ce qu'on n'a pas le choix de faire des choix difficiles pour avoir de la marge pour aider les familles.
Parfaitement d'accord. Est-ce que le Québec manque de revenus actuellement? Est-ce qu'on envoie assez d'argent au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada pour ce qu'on reçoit en service?
Est-ce que le gouvernement manque de revenus? Je veux dire simplement, je pense que le gouvernement a trop de revenus, clairement, parce que s'il y a de l'argent, si on a assez de revenus pour garrocher des milliards en subventions aux entreprises, comme on le fait à chaque année, si on a assez d'argent pour donner des augmentations de salaire aux députés, c'est clairement qu'on a trop d'argent. Ceci étant dit, on pourrait même en avoir plus. Par contre, je pense que de se tourner constamment vers les contribuables et les entreprises, ce n'est pas la bonne solution. Une des solutions qu'on préconise souvent, si on veut augmenter les revenus du gouvernement, ça serait d'exploiter davantage nos ressources naturelles, notre pétrole, notre gaz, notre uranium. C'est quand même trois énergies, trois formes de ressources naturelles qui sont, d'un, qu'on ne peut pas exploiter au Québec parce qu'il y a carrément des lois et des moratoires qui nous en empêchent, mais qui sont également très prisées sur les marchés internationaux. Donc, il y a comme un manque de logique là-dessus, puisque ça nous permettrait d'augmenter de manière assez substantielle les revenus du gouvernement sans pour autant aller en demander davantage aux contribuables. Maintenant que c'est dit, il y a un narratif qui s'est constitué au cours des dernières semaines. Il y a eu le rapport dont on parlait tantôt de l'UMQ, ouais, de Jérôme Forget-Marceau. Il y a aussi eu, il y a quelques semaines, le congrès de Québec solidaire où est-ce qu'on parle de taxer les ultra-riches. Il y a aussi eu plusieurs commentateurs, tant à Radio-Can, La Presse et autres, qui ont laissé entendre que ben, le prochain gouvernement devrait abolir ou plutôt revenir en arrière sur ses baisses d'impôts, puisque le gouvernement, finalement, doit serrer la ceinture et les temps sont difficiles à cause de l'état des finances publiques. Je veux dire, le constat par rapport à l'état des finances publiques est quand même approprié. C'est vrai qu'on est dans le trou. Par contre, de revenir en arrière puis de dire que, ben non, c'est parce qu'on manque de revenus, on ne va pas en chercher assez dans les poches des contribuables, c'est là que je pense que la logique est complètement erronée. La réalité, c'est que le gouvernement dépense mal votre argent. Quand même bien qu'il irait chercher 5 milliards de dollars de plus dans les poches des ultra-riches, comme le propose Québec solidaire avec sa taxe sur les 25 millions de dollars et plus. D'un, ça n'effacera pas le déficit. De deux, il y a quand même une bonne chance que ces capitaux-là disparaissent du Québec avant même qu'ils soient taxés, qu'ils soient déplacés ou que les gens qui les possèdent décident de déménager. Puis finalement, si le gouvernement continue à dépenser en cabochon l'argent des contribuables, que tu donnes 5 milliards de plus ou 10 milliards de plus, c'est de l'argent qui va quand même être dilapidé. Donc, il faut quand même changer de modèle. Il faut s'attaquer à des mauvaises pratiques. Il faut mettre fin aux subventions aux entreprises. Il faut freiner la croissance de la bureaucratie gouvernementale. Il faut réformer les manières. Il faut introduire davantage de privés dans la gestion des infrastructures. Bref, il y a beaucoup de réformes à faire avant de demander une seule cent de plus aux contribuables. Puis même, j'allais être honnête, en théorie, une fois que le ménage est fait, on devrait juste en redonner davantage aux contribuables plutôt que même de justifier d'en prendre davantage.
Alléluia!
Amen!
Entièrement d'accord avec toi. Ce soir, on a le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. On fait une courte pause, puis après ça, ben, on parle du gouvernement de Mark Carney.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Si vous voulez communiquer votre appréciation, oui, pour la toune de Max,
soyez original dans votre négativité.
Oh! On va battre les Hurricanes! Yes!
Finalement, on a trouvé la toune faire parler terroriste à Guantanamo. La toune à Max me donne envie d'être Bruce Willis.
Non,
tu reproches à Slavkovski d'être mêlé sa glace un peu perdu, là. C'est toi dans ce tune-là. Là.
Puis moi, je m'aime pas commotionné. Denis, il y a quelqu'un qui demande quand je finis mon stage. La plus grosse vague de haine depuis le départ d'André Arthur.
J'adore Arnaud qui dit « J'arrête ça, Max. Jeff est encore fragile. »
ça a l'air que même les jeunes à l'école des malentendants ont pleuré.
Stop de boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55.
OK, vous êtes malade. Vous êtes malade.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bella vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
La EV4 100% électrique est offerte à moins de 42 000 $. Vous ne paierez plus jamais d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bella domine grâce à vous.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bella vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 27 000 $, la K4 est le véhicule le moins cher au pays et il consomme très peu d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bella domine grâce à vous.
Le plus gros spectacle de lutte professionnelle de la NSPW est de retour avec le Golden Opportunity 16 le 13 juin prochain à 20h. On vous attend au pavillon Guy Lafleur. Mustapha Ali, Cédric Alexander, deux anciennes stars de la WWE, seront présents. On vous réserve une finale avec Michel Plante, Matt Falco et Claude Malone et des lutteurs de la région de Québec. Ah ouais! Il va y avoir aussi un combat d'échelle. Rendez-vous au ticketpro.ca ou encore écoutez Boulevard 102.1 pour gagner vos billets. Boulevard 102.1, Pierre partenaire de la NSPW. 89,95 pour un traitement anti-rouille original. C'est 25 $ de rabais. Un prix comme ça, ça se reverra pas. Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant chez Anti-Rouille Champlain.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
On va se le dire, acheter des lunettes, c'est souvent compliqué et trop cher. Scoop Vision change la game. Des montures stylées, ajustées pour vous, à des prix qui font vraiment du sens. Scoop Vision, enfin une vision honnête. Scoopvision.ca.
Hey, saviez-vous que la place pour votre nouvelle voiture, c'est Lévis Subaru? En plus, ils viennent tout juste de déménager dans plus grand et plus moderne, au 5085 Christophe Colomb à Lévis, près de l'autoroute 20. Pour une toute nouvelle expérience client, notre équipe vous attend.
Visitez LévisSubaru.com.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1 $ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participants, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Jusqu'au 31 mai, c'est le rendez-vous nautique chez La Tulipe. Achetez l'embarcation de vos rêves et courez la chance d'en gagner la valeur. Kayak, canot, planche à pagaie. Alors vous embarquez? Venez nous voir chez La Tulipe.
Si les locataires aiment tant recommander Promutuel Assurance, c'est entre autres pour ses bons conseils.
Et aussi parce que ça vaut le coup.
Oh, vous vous êtes assuré pour pas cher.
Mais hein, puis ça protège mes affaires qui, elles, valent cher.
Je comprends. Surtout que c'est pas l'assurance de votre proprio qui va les protéger.
C'est bien pour ça que je l'ai prise.
Votre assurance locataire?
Oui.
Chez Promutuel?
Oui, monsieur.
Excellent. Alors, pour une assurance locataire qui vaut le coup...
Mais hein.
Choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance est la 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 la.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mai, obtenez le Bronco Sport 2026 à partir de 89 $ par semaine en location 60 mois. Et le F-150 2026 en financement à partir de 0 % jusqu'à 72 mois. Pour les meilleures offres, passez nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins Ford.
Pièces d'auto économique, c'est 8 magasins et ce, partout au Québec. C'est des grandes marques et des prix compétitifs. Promotion en cours sur les freins Brake Max et Bosch et plus encore. En grande nouveauté, notre magasin sur Charest vous accueille aussi le samedi de 8h à midi. Pièceséconomique.com.
Village Vacances Valcartier vous fait une offre à faire crier de joie. Achetez une passe de saison au Village Vacances Valcartier à seulement 79,99 et obtenez un accès illimité pour la ronde et le parc aquatique Calypso. Trois parcs, trois fois plus de plaisir. Abonnez-vous au bonheur avec Village Vacances Valcartier. Offre valide jusqu'au 14 juin.
Arrêtez ce que vous faites et saisissez une rare opportunité. Le rassemblement des concessionnaires Nissan de Québec et Lévis dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi seulement. Voyez de près nos joueurs vedettes comme le flamboyant Kicks et comparez-le avec ses concurrents. Mettez-nous au défi. Vous verrez qu'il domine autant au niveau de la performance que du prix. En location sur 60 mois à partir de seulement 88 $ par semaine. Faites vite, ça finit mercredi. Profitez-en. Détails chez vos concessionnaires Nissan de Québec et Lévis.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
BLVD.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Ce soir, dans Mars au soir, c'est le podcast avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On a parlé beaucoup de la province de Québec. Maintenant, passons à Mark Carney. Comment administre-t-il notre argent selon la Fédération canadienne des contribuables, Nick?
Écoute, pas vraiment de la meilleure des manières. On va se dire franchement, comme j'ai dit tantôt, essentiellement, on s'était fait promettre quand même une bonne gestion des finances publiques de par son CV, de par son background. Puis finalement, Mark Carney arrive à accumuler des déficits beaucoup plus importants que son prédécesseur. On l'a vu déjà avec son budget l'an dernier, on l'a vu avec sa mise à jour économique cette année. Récemment, j'ai des amis de l'Institut économique de Montréal qui sont allés en comité parlementaire à Ottawa pour dire que si la tendance se maintient, le déficit du gouvernement fédéral pourrait atteindre là, les centaines de milliards de dollars d'ici la prochaine décennie. Ça, c'est à cause de la tendance dans laquelle nous a engagé le gouvernement fédéral de Mark Carney, qui, sous couvert de faire des investissements historiques, que ce soit dans la défense nationale ou dans différentes industries, ou sinon même dans l'histoire d'un potentiel TGV, bref, dans tous ces cas-là, on arrive à créer un déficit encore plus important que ce que Justin Trudeau, qui était tout sauf un homme rigoureux avec les finances publiques du Canada, avait projeté de son côté. Donc, Mark Carney, comme j'aime le dire, le banquier fait pire que le professeur d'art dramatique. C'est quand même assez surprenant.
Est-ce qu'on risque la décote?
Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis à chaque fois, je me dis, écoute, on va espérer que ça n'arrive pas, parce que ça donne des choses qu'on a besoin. Est-ce qu'on frôle, est-ce qu'on joue un peu avec la décote? Je me souviens que l'année dernière, l'agence de notation Fitch avait averti le gouvernement de Mark Carney.
Ouais.
Je ne sais pas s'ils ont retenu l'information ou si les ajustements ont été faits pour finalement plaire à Fitch et éviter qu'il y ait une décote en ce sens. Ceci étant dit, on est justement durant la période de l'année où est-ce que les institutions financières sortent des bilans, où est-ce qu'on a des agences de crédit qui commencent à s'intéresser au profil des provinces et des gouvernements fédéraux. Donc, ça pourrait arriver du jour au lendemain. Par contre, pour expliquer aux gens ce que ça veut dire, une décote, c'est un peu comme votre propre cote de crédit personnel. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise cote de crédit, bien, vos conditions d'endettement ou d'emprunt vont être plus serrées, que ce soit les termes de remboursement ou que ce soit le pourcentage que vous payez en intérêt. Tout ça va avoir un impact. Et bien sûr, si vous avez une mauvaise cote de crédit, ça se peut qu'on vous refuse carrément. Bien, c'est à peu près la même chose pour le gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise cote de crédit, qui subit une décote, les conditions d'endettement vont être plus élevées. Présentement, on paye environ, 57 milliards de dollars en intérêts sur la dette du gouvernement fédéral par année. 57 milliards. Bien, dites-vous que si on subit une décote, ça pourrait monter facilement à 60, 65 milliards en un claquement de doigts. Pourquoi? Parce que les intérêts qui sont carrément composés sur la dette nationale ne feraient qu'augmenter. Le taux d'intérêt sur plusieurs emprunts ne ferait qu'augmenter. Et à terme, ça nous coûterait des milliards et des milliards de plus. Le Québec, c'est exactement ce qui s'est produit l'an dernier, qu'on a eu une décote de la part de Standard & Poor's. Ben, à cause de cette simple décote, ça va nous coûter 500 millions de dollars de plus collectivement pour les 10 prochaines années, pour rembourser la dette du Québec, ou plutôt en frais d'intérêt sur la dette du Québec. Donc, une décote, c'est généralement le résultat d'une mauvaise gestion des finances publiques, d'un mauvais engagement, d'un manque d'engagement à rééquilibrer les finances, d'avoir un plan pour le faire, et finalement aussi d'avoir généralement des dépenses qui sont trop élevées et qu'il n'y a pas non plus de mesures mises de l'avant pour essayer de trouver des économies. Donc, tout ça étant dit, faut le dire, le gouvernement de Mark Carney nous amène dans une mauvaise posture. On va quand même espérer que les choses se corrigent. On va espérer que j'aille complètement tort et qu'il n'y ait pas de décote. Mais c'est vrai que la possibilité est bien présente.
On va souhaiter que ce que tu mentionnes ne sont pas des prévisions de Nostradamus. Nostrada Taxman.
Exact. On va le souhaiter.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur ta fédération, c'est contribuable avec un S.ca. Je te souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs. Puis pour toi, on se reparle lundi prochain dans mon show. Et pour les autres, dans Mars au soir, ce sera dans quelques semaines avec la Fédération canadienne des contribuables. Salut Nick!
Salut, à bientôt.
Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Ce soir, les capitales de Québec sont au Stade Canac. Ambiance festive, hot dog, circuit et plaisir. C'est la sortie idéale. On se voit ce soir. Billets à capitaldequebec.com.
Wow! La nouvelle Mitsubishi RVR ES 2026 peut être à vous pour seulement 79 $ par semaine chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Aucun comptant, 16 000 km par année avec un taux d'intérêt de 3,49% sur 60 mois. Profitez d'un VUS fiable, économique en essence et protégé par la célèbre garantie 10 ans Mitsubishi. Dépêchez-vous, cette offre est pour un temps limité seulement. Passez dès maintenant chez Québec Mitsubishi et Sainte-Foy Mitsubishi.
La vague de chaleur est là!
Quoi? Déjà?
Ouais, et tu sais ce que ça veut dire?
Crème solaire, hydratation, lunettes de soleil!
Et des économies, parce que la vague de chaleur du Club Entrepôt est arrivée. Et en ce moment, vous pouvez obtenir 3,78 litres de sauce Frank's Red Hot pour 14,99 $.
Oh oh!
En plus, les prix sont gelés jusqu'au 15 juillet.
Chaud devant!
Voir en succursale ou visiter leclubentrepôt.ca pour les détails.
Club Entrepôt, le plein de valeurs.
Avant d'appeler le garagiste, signer une facture salée. Fais un arrêt stratégique chez Pièces d'Auto Extra. Les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et la nouvelle succursale de Beauport. Piècesautoextra.com.
Vous cherchez une solution simple pour gérer vos véhicules commerciaux? Avec le service Ford Pro chez Lévis Ford, on s'occupe de tout. Du choix du véhicule au financement jusqu'à l'entretien. Moins de gestion, plus d'efficacité. Passez nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, les forts de Lévis.
L'aventure vous appelle par partout au Québec, chez Arbraska. Tous nos parcs sont ouverts avec encore plus de tyroliennes, de défis aériens et de sensations fortes en pleine nature. En famille, entre amis ou entre deux montées d'adrénaline, découvrez votre aventure dès maintenant. Réservez sur arbraska.com.
Ton boss t'a encore dit « on va s'en reparler ». Tes projets avancent à deux à l'heure, puis t'es tanné de rafraîchir ton écran en attendant que ça bouge. Viens nous voir. Ici, ça avance, puis vite. Chez Trudel,